ラジオオカピオカピオカピサービスアベマセルゴンボンバラオカピ。
Chers auditeurs de Radio Capi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Est-il important d'envoyer son enfant à l'école ou c'est pas important? On en parle avec notre invité Michel Otto, coordonnateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement APE en sigle. Il est avec nous dans ses studios. Michel Otto, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour Marcel Gombo, bonjour à tout le monde qui nous suit de partout à travers le monde de la RDC.
Bah, si vous vous êtes intéressé, vous voulez participer à ce magazine, le numéro pour envoyer un message vocal, c'est le 09 716 99 41. J.C. Sincère est toujours là, la mise en onde de Tati Mapoukossi réalise et coordonne ce magazine, il est toujours bien là. Et à la présentation, je suis là aussi, Marcel Ngomombala, sous la présentation de Jean-Marc Batouaki.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Ça se passe près de chez vous.
Bon nombre de parents congolais pensent qu'envoyer son enfant à l'école maternelle, c'est tout simplement gaspiller de l'argent. Et pourtant, les recherches scientifiques démontrent l'importance pour tout enfant de passer par la formation préscolaire qui comprend l'école maternelle, l'espace communautaire d'éveil et la classe pré-primaire tous ces jours avant 6 ans. Affirment les spécialistes. Autre constat, bon nombre d'enseignants de cette filière ont appuyé le métier sur l'État. Est-il important d'envoyer son enfant à l'école maternelle ou pas? Comment est-ce que ce secteur est organisé en RDC? Michel Otto, coordonnateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement, est notre invité. Rebonjour Michel Otto.
Rebonjour Marcel. Voilà.
Alors, avant de parler de l'importance d'envoyer son enfant à l'école, parlez-nous un peu de cette agence pour la promotion de l'enseignement.
L'APE est une ONG qui évolue dans le secteur de l'éducation de façon générale. Et nous sommes là pour des formations, la recherche et la promotion vraiment de l'enseignement en général, mais le préscolaire de façon très particulière. Nous jouissons d'une personnalité juridique et nous sommes une ONG partenaire de l'EPST avec un arrêté du ministre et notifié par le secrétaire général. Et nous assurons des formations aussi bien à Kinshasa qu'en dehors de la capitale. Nous avons notre siège à Massina Don Bosco, à l'EPE Don Bosco. Nous avons un siège à Kintambo au sein du complexe scolaire des Petits Lutins, à Kintambo Vélodrome.
À Massina Don Bosco, il faut préciser ici,
Congo. À Kinshasa. Et nous sommes aussi à Yolo et dans l'enceinte de l'école Émergence. Mais nous avons également des bureaux à Matadi pour le moment. On avait un bureau à Mbandaka que nous avons fermé, mais nous comptons avoir aussi un bureau à Kikwit et puis à Lubumbashi.
C'est pour bientôt. Vous existez depuis quand?
Nous sommes en vie depuis 2013, depuis le 26 juillet 2013, ici à Kinshasa. Mais nous avons des tentacules, même au niveau de l'Afrique francophone, pour distiller la bonne information liée à l'enseignement en général et au préscolaire de façon très particulière.
Alors, puisque vous êtes une agence pour la promotion de l'enseignement, vous avez parlé de ce que vous faites. Et là, on va plus s'apesantir sur l'école maternelle.
Oui.
Il y a des parents qui estiment que c'est quand même cher. Hein, envoyer les études à l'école maternelle coûte quand même cher. Et ça décourage certains parents et beaucoup d'autres disent même parfois, mais à quoi ça sert?
Ok. Marcel, ces parents qui pensent que ça coûte cher, je pense qu'ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que il faut dire que nous avons un déficit. Il faudrait que, avant de commencer à répondre à cette question, je voudrais planter le décor.
Oui.
Dire que le préscolaire, de façon générale, ce n'est pas un domaine qui n'a commencé qu'en RDC. Le préscolaire est reconnu à la fois sur le plan international, sur le plan panafricain et sur le plan national. Alors, sur le plan international, nous avons des instruments tels que la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de la petite enfance. C'est un document qui reconnaît le préscolaire. Nous avons l'instrument comme la Convention relative aux droits de l'enfant. Nous avons les ODD, qui ne datent pas de très longtemps, et de façon très particulière, l'ODD 4.2, ça fait la promotion du préscolaire. Et nous avons l'agenda 2063 de l'Union africaine, nous sommes en Afrique, et nous avons aussi le cadre global des soins attentifs, un document de l'UNICEF et OMS ensemble. Et enfin, nous avons la stratégie globale d'éducation et développement de la petite enfance et de partenaires clés, un document de l'UNICEF, plutôt de UNICEF, UNESCO et Banque mondiale, GPE, ensemble. Maintenant, au niveau de la RDC, le préscolaire, il faut d'abord dire que c'est une éducation, c'est un droit. Naturellement, il est reconnu par notre constitution de février 2006. Nous avons aussi le préscolaire qui est reconnu dans la loi cadre de 14 février 2014 reconnaît la maternelle comme un niveau d'enseignement ici au pays. Et aussi, nous avons la stratégie sectorielle d'éducation de la formation qui, 2016-2025, qui reconnaît le préscolaire également, mais avec un accent particulier parce que la stratégie met la maternelle comme étant une des priorités et une des réformes avec la classe préprimaire en RDC. Et enfin, nous avons le recueil des normes.
C'est quoi la différence entre la classe primaire et l'école maternelle?
Je vais arriver.
D'accord.
Et nous avons le dernier instrument qui est le recueil des normes de l'enseignement préscolaire en RDC, qui aussi fait la promotion du niveau préscolaire. Maintenant, votre question qui est liée à la différence entre la classe préprimaire et
l'école maternelle.
Je vais prendre carrément les trois notions. J'ajoute à cela l'espace communautaire d'éveil. Lorsqu'on dit école maternelle, d'après la loi cadre de l'enseignement de l'EPST, l'enseignement national plutôt, il est défini comme un niveau d'enseignement qui a un cycle de 3 années d'études dans lequel on trouve les enfants de 3 ans, de 4 ans et de 5 ans pour un enseignement. Lorsque nous prenons toujours la loi cadre, l'école maternelle est développée et mise sur pied par soit des privés, soit l'État lui-même, et soit des confessions religieuses. Alors, l'école maternelle peut aussi être mise sur pied par des communautés entières, par des villages. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle espace communautaire d'éveil. C'est-à-dire les mêmes conditions. 3 années, 3 classes avec le personnel. Et à la différence avec la classe préprimaire, c'est celle où il n'y a qu'une seule classe qui ne reçoit que les enfants de 5 ans. Elle dépend justement de l'école primaire. C'est une nouvelle donne qui a été mise sur pied depuis 2014. L'objectif était justement d'avoir dans chaque école primaire publique de l'État donc, qui a une structure ayant plus de 6 classes, au moins une classe préprimaire. On devait avoir uniquement les enfants de 5 ans pour passer ne fût-ce qu'une seule année de préscolarisation. Parce qu'il faut dire, Marcel, que faire la préscolarisation, c'est ça un gain important. Et quand on passe par la classe préprimaire, nous n'avons que 75% d'acquis. Tandis que quand on fait l'école maternelle complète, nous avons 100% d'acquis. Et l'objectif ici, c'est pas seulement préparer l'enfant à l'école maternelle, plutôt à l'école primaire. L'objectif du préscolaire, c'est d'abord socialiser l'enfant, éduquer, lui donner une bonne éducation psychomotrice, sensorielle, liée à son âge, et enfin le préparer à son accès à l'école primaire.
Voilà, là c'est bien clair. Vous nous avez éclairci par rapport à toutes ces notions, école maternelle, espace communautaire de veille et la classe préprimaire. Mais j'aimerais d'abord savoir pour ce qu'est l'école communautaire, l'espace communautaire de veille et la classe préprimaire. Ça s'implante au fur et à mesure ou bien c'est vraiment déjà implanté dans plusieurs points à travers le pays.
Bon, il faut dire que nous avons un problème. Lorsque le ministère a lancé ce qu'on appelle la classe pré-primaire, d'abord l'idée était venue d'une ONG internationale, d'une organisation, c'était l'UNICEF je pense, oui l'UNICEF, qui a proposé d'expérimenter avec 100 écoles, 100 classes pré-primaires. Et le ministère a pensé que 100 classes était peu, il fallait en ajouter 900 pour avoir 1000 classes pré-primaires. Et donc jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que les 100 classes de l'UNICEF sont encore visibles et retrouvables. Et les 900 du gouvernement sont peut-être à chercher ça et là, mais je crois qu'il y a un petit problème pour le maintien de ces classes-là, alors que ça reste un aspect très très important. Et en ce qui concerne les espaces communautaires d'éveil, il faut dire que il y avait un engouement au départ. Lorsque le projet avait été lancé, toutes les communautés voulaient en avoir. Il faut préciser ici que les espaces communautaires d'éveil avaient bénéficié de l'accompagnement aussi bien de l'UNICEF, de FAO, parce que les enfants y mangeaient, les enfants avaient, il y avait des cantines communautaires, les cantines scolaires dans ces écoles-là, plus les partenaires s'est retiré, moins les communautés continuaient avec les espaces communautaires d'éveil. Et il s'est fait que la plupart, comme dans l'idée c'était la gratuité dans ces espaces-là, avec le retrait des partenaires, les communautés n'étant pas à mesure de pouvoir continuer avec cette idée, beaucoup d'écoles avaient été transformées en écoles maternelles qui, il faut le dire, ne sont pas gratuites. C'est faut le dire.
Ouais, l'école maternelle n'est pas gratuite, c'est justement ça. L'enjeu hein, de ce magazine par rapport à tout ce qu'il faut engager comme frais pour assurer à son enfant cette éducation maternelle avant que l'enfant puisse commencer l'école primaire. Alors, on le disait au départ qu'il y a des parents qui se disent que c'est beaucoup d'argent à débourser, mais selon les spécialistes, cela est très très important et il faut absolument faire en sorte que l'enfant puisse commencer à l'école maternelle. Vous êtes expert dans ce domaine. Est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qui se passe entre l'enfant qui n'a pas fait l'école maternelle, qui a commencé directement à l'école primaire, et l'enfant qui a commencé par l'école maternelle?
Très bien. Très bonne question. Tu sais, Marcel, la réponse à cette question, je vais la tirer aussi bien de la science, des grands économistes et même du vécu quotidien. Vous voyez, pour répondre à votre question, je vous amène tous deux dans une classe de première année primaire, où nous avons deux types d'enfants. L'un qui vient de la maison directement et l'autre qui est passé par l'école maternelle. Il faut se poser la question, qu'est-ce que l'enfant de maternelle, qui est passé par la maternelle a appris? En maternelle, cet enfant a appris de façon globale la socialisation. Cet enfant a appris la préécriture. Il a appris la pré-lecture. Il a appris le pré-calcul. Cet enfant connaît les rudiments. Il connaît comment tenir un outil. Cet enfant a même, je peux dire, et même la crise d'adaptation est déjà partie. Ce qui fait que lorsqu'il est en première année primaire, il a beaucoup de facilité pour avancer. L'enfant qui a fait la maternelle a acquis beaucoup de choses que celui qui vient de la maison n'a pas eu forcément. Parce qu'on peut aussi avoir les mêmes acquis à la maison si les parents sont d'un certain niveau, ce sont des cas extrêmement rares dans notre pays, RDC et même dans beaucoup de pays d'Afrique. Mais je voudrais évoquer un grand économiste, Ekman. Ekman, c'est un grand économiste de la Banque mondiale. Lui, il a dit ceci. Plus l'investissement est réalisé tôt, plus le rendement est élevé. Alors, ceux qui pensent qu'il faut qu'on investisse dans le jeune enfant du préscolaire, on aura ainsi assuré son avenir. On aura assuré son lendemain. Parce que, vous savez, on ne sait pas lire si on ne sait pas différencier grand, petit, long, court, mince, gros. Ce sont des notions élémentaires qui préparent l'enfant à la lecture. Et toutes ces notions sont apprises depuis la maternelle. Et à la maison, on les apprend, c'est vrai, mais c'est pas systématique. Ce qui fait qu'au niveau du primaire, ça pose problème. Alors, donc, investir en maternelle, c'est vraiment assurer beaucoup d'avenir pour son enfant. Un autre aspect des choses. Il faut voir que disent les sciences au niveau des neurosciences. On voit le cerveau de l'enfant. Le cerveau qui est la base de tout, de toute notre vie intellectuelle, il est démontré aujourd'hui que 85% du cerveau de l'enfant est développé avant 6, 7, 8 ans. Mais 6, 7, 8 ans, c'est là du préscolaire. Lorsque un enfant est né, il n'est soumis à aucune excitation sensorielle, il n'est soumis à aucune excitation liée à la lecture, il n'est soumis à, dans des conditions pas très très bonnes pour bien évoluer, son primaire aura des problèmes. Donc, il faut ajouter que, à cela, bien que la maternelle va venir après, mais il y a un grand rôle à jouer au niveau de famille pour que les 100 premiers jours de l'enfant dans les 3 premières années, qui sont très cruciales, soient pris au sérieux. Voilà un peu, de façon très très ramassée, pourquoi former son enfant à l'école maternelle.
On va également parler de la formation de ces personnels enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans cette filière, mais qui ont appris le métier sur l'État. On va revenir aussi par rapport à cette question. On va se tourner vers le standard, où il y a déjà des messages ou des voix, hein, à ce numéro 099-756-9941. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la PIC, votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous abordons ces sujets avec notre invité Michel Otto, coordonnateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement. Est-il important d'envoyer son enfant à l'école maternelle? Si vous êtes intéressé, faites nos messages au 099-756-9941. On va directement écouter cet audio. Qui n'a pas pu se présenter. Il a préféré réagir sous anonymat. On va l'écouter.
Et lorsque on parle de l'école maternelle, au jour d'aujourd'hui, nous savons que l'école maternelle, c'est une école de prestige. Pour cela, soit c'est devenu une école pour de ceux-là qui ont des moyens, qui déboursent beaucoup d'argent pour leurs enfants, du reste, bon. Mais je trouve que ça, d'un côté, ça essaye aussi de donner assez de connaissances continuelles, hein, c'est-à-dire en continuité pour l'enfant, parce que ce n'est pas rien. Lorsque l'enfant entre en première, en deuxième, il arrive en troisième, c'est qu'il a accumulé un bagage considérable pour pouvoir affronter l'autre section qui est le primaire. Alors moi, je pense que c'est intéressant. L'enfant qui commence par le maternel a des avantages, hein, ça c'est d'une manière générale, mais il y a des enfants, tout est au prorata de l'adaptation de l'enfant. Il y a ceux-là qui s'adaptent, quand bien même ils entrent en premier, ils montrent quand même de belles impressions. Mais lorsque l'enfant est envoyé en maternelle, d'ailleurs pour le premier pas, il manipule tous les sens, tout ce qu'il faut. Et je pense que les enfants ont une bonne assimilation et l'adaptation est considérable. L'enfant qui va en maternelle, je trouve qu'il est complet, il a accompli tout ce qu'il fallait pour pouvoir, n'est-ce pas, avancer au niveau primaire sans inquiétude. Parce que, vous savez, lorsqu'on quitte d'une section vers une autre, il y a toujours ce qu'on appelle une charnière qui permet à ce que l'enfant continue en toute quiétude. Je pense que c'est ça l'importance. Mais du reste, nous savons bien que il y a des enfants qui peuvent commencer par la première et s'ils s'adaptent facilement, donc dans la manière du possible, et je pense qu'envoyer l'enfant au niveau à partir de l'école primaire et des maternelles n'est pas un péché. C'est aussi donner quand même assez de connaissances considérables à l'enfant pour la suite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Merci à vous aussi. Voilà, vous avez suivi cet auditeur qui a bien voulu intervenir sous couvert d'anonymat. Comment réagissez-vous? Il est là, en tout cas pour lui, il estime que, comme vous l'avez dit, c'est important de faire en sorte que son enfant puisse commencer par l'école maternelle avant de rejoindre l'école primaire. Ça permet à l'enfant d'être déjà, de s'adapter déjà au milieu scolaire.
Il a raison.
Mais il a également dit, bon, si des parents qui estiment qu'ils n'ont pas de moyens pour ça, bon, et que l'enfant peut directement commencer seulement dès la première année primaire, bon, Ça dépend aussi des moyens.
Oui, ça dépend de moyens. Il faut ici souligner que nous avons un déficit d'accès. La République démocratique du Congo, notre pays, nous avons un taux d'accès au préscolaire estimé à 5,8, quelque chose comme ça. Donc, on peut arrondir à 6% du taux d'accès au préscolaire.
Et c'est justement dans les grands centres urbains, j'imagine, hein, l'école maternelle.
Oui, oui, c'est un phénomène à la fois urbain, en tout cas à la fois urbain et puis à la fois des familles assez nantis. Parce que urbain, il y a urbain et urbain.
Oui.
Kinshasa est généralement urbain, mais Kinshasa, il y a aussi des périurbains. Maluku est dans Kinshasa qui est urbain.
Une commune urbano-rurale.
Voilà, oui. Et tout ça, c'est un déficit. Lorsque le gouvernement congolais, déjà en 2014, avait pensé à mettre sur pied de classes pré-primaires et ainsi que des espaces communautaires de veille. L'idée, c'était d'alimenter en grand nombre le préscolaire au niveau rural. Parce que l'importance n'est plus à démontrer. Alors, le taux de 6% reste un défi. Lorsque le ministère a, il y a 2-3 ans, a fait la révisitation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, 16-25, il avait été dit que d'ici 2025, le pays devait passer de 6 à 15% du taux d'accès. Et ça, ça reste encore un défi majeur. Le gouvernement a lancé ce défi, mais très peu d'efforts ont été fournis pour que nous puissions atteindre cet objectif, qui n'est pas aussi compliqué. Et voilà pourquoi nous sommes en train de travailler en tant que société civile, à accompagner le gouvernement par des actions. On va peut-être en parler vers la fin. Nous avons pensé organiser un événement qu'on appelle la grande fête du préscolaire pour justement essayer de booster les taux d'accès du préscolaire. Mais avant d'arriver à cela, vous avez évoqué l'aspect des enseignants qui ne sont pas
Sont formés sur le tard, qui n'ont pas suivi une formation adéquate pour en tout cas faire ce travail d'enseignant à l'école maternelle.
Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort parce que lorsque nous lisons les documents officiels, l'annuaire statistique paru dernièrement, et même lorsque nous lisons le RESEN 2022, le RESEN 3 montre clairement que nous sommes à 12% d'enseignants qualifiés pour le préscolaire. 12%.
Quand on parlait de RESEN, vous voulez dire
RESEN, c'est le rapport d'éducation que chaque pays fait en rapport avec tous les systèmes éducatifs. Maternelle, primaire, secondaire, supérieur, tout ce qui est formel et non formel. C'est un document national. Alors, le RESEN 3 a montré que nous étions à 12% d'enseignants qualifiés pour le préscolaire. Et ça, c'est dangereux. Alors, d'où vient ces 12% et pourquoi c'est si faible? Il faut dire que ça fait très longtemps, lorsque la coopération belge avait été coupée, le gouvernement, sur le plan officiel, ne disposait plus d'une structure pouvant former le personnel, pouvant enseigner au niveau du préscolaire. Ça, c'est un fait vérifiable, vrai. Comme la nature a horreur du vide, les privés sont venus combler ces villes-là, parce que à Kinshasa, par exemple, nous n'avions qu'une seule structure au niveau des limités 8e rue, tenue par des Belges. Lorsqu'ils sont partis, les privés sont venus remplacer. Et il y a eu une prolifération de différents centres de formation, ça et là. Et ces centres, chacun est en train de travailler avec son programme comme il
le
veut.
Le centre de formation agréé par le ministère
certains,
de tutelle.
Certains agréés, certains non. Alors, chacun travaille avec un programme qui est propre à lui. Et il n'y a pas très longtemps que le ministère s'est réveillé à travers le CNAFA maternel et la direction des programmes scolaires et didactiques pour mettre sur pied un document officiel faisant foi du programme national devant régir tous les centres de formation qui font les
études maternelles. Donc, on a uniformisé, l'État a uniformisé le programme.
L'État est en train d'uniformiser.
C'est
un processus. Oui. Peut-être que si tout va bien, d'ici la rentrée scolaire prochaine, les choses pourraient être finalisées pratiquement. Alors, donc, ceux qui viennent, il faut poser un problème parce que tellement, aussi bien les communautés, les autorités que tout le monde pense que ce sont des petits enfants de 3, 4, 5 ans. Ils sont pas assez mûrs, donc on peut le mettre devant n'importe qui. On prend son beau-frère, sa belle-sœur, sa énième bureau, on prend sa voisine, on prend sa sœur de l'église, on le met pour encadrer les enfants. Sans formation aucune, parce qu'on se dit, mais ce sont des petits enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent? Alors, les bombardent des choses qui ne sont pas adaptées à eux, alors que les enfants, eux, apprennent sous forme de jeu, en chantant, en jouant, et tout cela avec des matières didactiques. Mais ceux-là vont encadrer les enfants sans matériel, sans jouer, et ça pose problème. Donc, je confirme que beaucoup de personnels qui occupent des enfants de maternelle sont formés sur l'État. Ça, c'est vrai, parce que les statistiques sont claires. Nous sommes à 12% d'enseignants qualifiés pour le préscolaire, mais les autres, ils sont où? Ils sont dans des classes. Ils apprennent sur l'État. Et ça reste un défi. Et moi, je suis persuadé que quand je vois, quand j'observe les choses telles que le ministère est en train de le mener maintenant là, à travers aussi bien l'inspection générale de l'enseignement que la direction des programmes scolaires, je pense qu'il y a espoir. Il y a espoir
Et quand vous avez parlé de votre agence pour la promotion de l'enseignement, oui. Vous formez également de votre côté les enseignants
justement,
pour
l'école maternelle. C'est notre contribution en tant qu'ONG à augmenter les taux d'enseignants qualifiés à travers le pays. Vous voyez, donc
parce que ça fait vous avez déjà combien de promotions depuis que vous faites ce travail?
Nous sommes là depuis 2013, il faut juste faire des petits calculs. Donc en moyenne, nous avons mis sur le marché près de 500 produits consommables.
Voilà. On revient à vous, Michel Otto, coordinateur de l'agence pour la promotion de l'enseignement. On va tourner vers le standard avec ce message vocal de Jérémy Do qui nous appelle, qui réagit depuis Bandundouville. Bonjour Jérémy Do.
Bonjour à l'invité. Bon, la thématique est bonne, je ne sais pas. Quant à moi, envoyer les enfants à l'école maternelle, c'est bien, je dois pousser des arguments. Mais c'est faux aussi, parce que vous savez, dans l'ancien temps, nos parents nos mamans ne savaient pas qu'est-ce que l'école maternelle. Mais ils étudieraient pour arriver même dans les grades, on dit quoi, D4, pas D6, D4. Mais ils savent quand même exprimer ou bien écrire. Que les enfants d'aujourd'hui, même ils sont à la maternelle, ils parlent mieux le français, mais ils ne savent pas ce qu'il est en train de parler pour écrire ça. Donc, pour moi, c'est bien, mais c'est faux aussi. Mais pour les enfants qui entrent seulement au premier primaire pour atteindre le sixième primaire, je pense avec la gratuité de l'enseignement, bon, ça commence peut-être à détruire les enfants. Mais si ce n'est pas c'était les gratuités, là, les enfants étaient quand même à bonne capacité. L'exemple de moi-même qui est en train de parler. C'est ça peut-être ma petite préoccupation. C'est Jérémy Do depuis Bandundouville. Merci.
Merci Jérémy Do depuis Bandundouville. Michel Otto.
Je salue Jérémy depuis Bandundouville et tout le monde qui nous suit depuis Bandundouville et qui quitte Moupébé Jean, je les salue également. Je voudrais ici apporter une nuance et une précision. Beaucoup de parents, beaucoup de gens pensent que envoyer son enfant à la maternelle, c'est pour aller apprendre à parler français. Non, c'est une des grosses erreurs qui est commise par nombreux parmi nous. Le français n'est qu'une langue au même titre que le Kimbala, le Longongo, le Kisuku, tout ce que vous voulez là. Alors, à l'école maternelle, l'enfant va apprendre la science. Il va éveiller ses sens. Il va apprendre des matières qui sont programmées dans le document officiel qu'on appelle Programme national d'enseignement maternel, qui, dans lequel on trouve 12 activités. Et toutes ces activités permettent à l'enfant de développer des compétences en utilisant les jeux. Donc, on peut apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sans passer par le français, qui n'est qu'une langue. Donc, ne confondez pas qu'un enfant qui parle français, qui parle bien français, parce qu'il est passé par la maternelle, non. On va y apprendre les notions de gauche, de droite, de longueur, de largeur. On développe la mémoire, on développe les facultés qui sont les facultés de l'enfant, bien sûr. Bref, on socialise l'enfant. On lui apprend à jouer avec les autres. On lui apprend à partager. On l'apprend des bonnes manières. On l'apprend à respecter le bien communautaire. Donc, pas de confusion, s'il vous plaît, cher Jérémy Do, depuis Bandonville, que le français ne soit pas un indicateur qui montre que l'enfant est passé par le préscolaire et l'enfant a bien appris au préscolaire.
Cette réaction qu'on va lire depuis Kisangani, je ne vois pas le nom de la personne qui nous a écrit. Voilà, on va lire la réaction. À mon avis, je soutiens les parents qui estiment qu'en faisant scolariser l'enfant à l'école maternelle constitue du gaspillage. Je me demande si ces spécialistes avaient étudié dans des écoles maternelles. Aujourd'hui, des partout en RDC, l'école maternelle joue une influence, surtout ici à Kisangani. Certains parents qui ont les moyens pensent que c'est un luxe pour l'enfant. Ils déchargent du comportement de l'enfant pendant qu'il est à la maison pour que sa maman reste libre à la maison. Et d'autres parents qui n'ont pas les moyens, j'ai du mal à comprendre. Et d'autres parents qui n'ont pas de moyens, j'arrive pas à comprendre qu'ils voulaient dire par là. Et d'autres parents qui n'ont pas de moyens se sentent moqués, hein.
J'ai compris.
Parce qu'ils peuvent pas amener leurs enfants, pour faire inscrire leurs enfants à l'école maternelle. Ils font tout pour faire scolariser aussi l'enfant à l'école maternelle. Ah, pour qu'on se manque pas d'eux. C'est-à-dire des parents qui n'ont pas de moyens pour tout. Pour chercher des moyens pour qu'on se moque pas d'eux, pour que l'enfant ne se gêne pas de voir que les autres enfants de son âge et vont à l'école maternelle, et puis c'est pas le cas pour lui. Alors les parents font en tout cas tout ce qu'il faut pour faire
un truc.
Tout à fait, c'est casse à mille morceaux. Et puis il y a également cette réaction aussi sur la page Facebook Happy Service de notre auditeur internaute qui nous a écrit ceci. Je soutiens l'idée de gaspillage d'argent car tout se répète à l'école primaire dès la première année primaire. Je suis enseignant, j'envoie seulement ton enfant en première année primaire à l'école où se trouvent des bons formateurs. Donc voilà, il y a ceux qui estiment que c'est du gaspillage simplement parce que lorsqu'on arrive à l'école primaire, il y a des enfants qui s'adaptent mieux que ceux qui sont passés par l'école maternelle. Et il y a celui-ci qui est un enseignant, il dit, il suffit seulement que dès l'école primaire, que l'enfant se trouve en face des enseignants bien formés, et tout va bien se passer.
Oui, il y a ceci. Autre temps, autre mœurs. Vous savez, Marcel, il n'y a pas très longtemps que la science a découvert comment le cerveau de l'enfant fonctionne lorsque l'enfant lit. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps que nous parlons des neurosciences. Notre ami a évoqué l'aspect selon lequel est-ce que ce spécialiste qui parle, il a fait la maternelle. Autre temps, autre mœurs. L'environnement qu'on avait hier, tous, on n'avait pas de téléviseur. Les quelques familles qui en avaient n'avaient que des téléviseurs sans télécommande, avec au départ le cas de Kinshasa, deux chaînes, OZRT et Télécongo. À l'époque, il fallait se lever pour aller manipuler le bouton tac 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 pour changer de chaîne. Et aujourd'hui, c'est la télécommande et on est passé à une panoplie de chaînes de télévision, avec même des chaînes câblées où l'information et arrive à une grande vitesse. À cela, il faut ajouter l'Internet, où nos enfants, même moins de 3 ans, certains ont des tablettes avec information, avec tout cela, ont des téléphones déjà Android.
On parle même de la génération Android.
Voilà. Alors, tout ça fait que les choses doivent être adaptées à l'environnement. Maintenant, je reviens lorsqu'il dit que il est important qu'on envoie les enfants seulement à l'école primaire où il y a des vrais formateurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que ça fait partie de déficits de notre système éducatif. On n'a pas un bon pont. Le pont n'est pas bien jeté entre la maternelle et le primaire. Il n'y a pas de pont. Ça, il faut le dire. Les enseignants et enseignantes de maternelle, dans leur programme de formation, ne connaissent pas ce que l'enfant va apprendre en première année primaire. De même, les enseignants de première année primaire n'ont pas appris qu'est-ce que l'enfant a appris avant. Et ça, c'est un déficit. Voilà pourquoi, à l'occasion de la grande fête du préscolaire qui est prévue au mois d'août, il est prévu 4 jours de formation avec un thème sur quels outils pour favoriser l'apprentissage de la préécriture et de la construction de la pensée logico-mathématique chez l'enfant d'âge préscolaire dans un contexte multilingue. Une formation qui va réunir les enseignants, aussi bien du préscolaire que du primaire, pour que chacun sache qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait de mon enfant en première avant, et pour que celui de maternelle sache qu'est-ce qu'on ferait de mon enfant qui sera en première après. Vous voyez? Et c'est vrai, c'est ce que notre ami a dit, que ça ne sert pas que l'enfant parle en maternelle, mais parce que les ponts n'est pas là. Donc, nous invitons ici le gouvernement à travailler pour jeter les ponts entre les deux cycles. Et je pense que le manque de ponts entre les deux cycles, il n'y a pas qu'au niveau élémentaire. Je trouve qu'il n'y a pas non plus de pont, un bon pont sécurisé entre le primaire et le secondaire, entre le secondaire et le supérieur. Je crois que c'est un problème pour lequel il faut vraiment s'asseoir et davantage gratter et réfléchir par rapport à cela.
Puisque vous y avez, vous avez déjà épinglé cette grande fête du préscolaire en EDC qui va se passer le 12 août prochain, avec l'appui du ministère de l'EPST. Voulez-vous nous dire un peu qui seront invités, qui sont concernés par cette grande fête du préscolaire?
La grande fête du préscolaire, tout le monde est concerné. Les journalistes que vous êtes, les artistes, aussi bien auteurs, sérigraphes, musiciens, parce que très peu en parlent. Ceux qui font le supérieur sont invités. Les parents, les communautés sont invités. Et d'ailleurs, c'est une opportunité pour non seulement communiquer sur l'importance du préscolaire, mais de mieux communiquer sur les pourquoi de la maternelle. Voyez? Et à l'occasion, on va avoir des conférences débats. On va avoir des jeux concours, on va avoir des remises de prix, et puis c'est une opportunité pour nous, les organisateurs, de pouvoir remettre des prix, des diplômes d'honneur aux différentes catégories des personnes qui ont travaillé pour le préscolaire. Vous voyez par exemple, parmi les catégories qui sont ciblées, il y a une loi ici au Congo, une circulaire du ministère qui dit seules les femmes ont accès dans les salles maternelles, pas les hommes. C'est ce que dit la loi ici au Congo. Alors qu'avec l'évolution des choses, on trouve ici et là, certains hommes tenir des classes. Et là, on va primer, on va remettre un diplôme d'honneur à ces rares hommes qu'on peut trouver dans une classe maternelle. On va primer à cette occasion également les quelques personnes qui ont été les pionniers de la formation au niveau du préscolaire, au niveau de Kinshasa. On va arriver aussi à primer les meilleurs inspecteurs principal provincial adjoint chargé de la maternelle. C'est pas des choses sans fondement. Le fondement, c'est que nous sommes basés sur quel inspecteur provincial a fourni, a travaillé le plus et a fourni beaucoup de rapports au niveau de sa hiérarchie. Donc, on va aller dans les annuaires de la hiérarchie pour voir quelle province a donné le plus d'informations possibles pour être primé. On va peut-être primer également certains partenaires techniques et financiers. Je ne sais pas les citer ici. On va le savoir le même jour. Lesquels ont beaucoup investi dans le préscolaire, pour la promotion du préscolaire. Et on va primer également certaines catégories de personnes qui ont fait du management pour que le préscolaire soit ce qu'il est aujourd'hui. Et aussi, on va primer une catégorie de personnes qui fait du lobbying, qui fait que le préscolaire soit bien vendu à travers la RDC, à travers l'Afrique francophone, pour justement les encourager. Mais à cela, nous aurons aussi des jeux concours. Hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux concours.
Oui.
Parce que c'est une opportunité de pouvoir jouer, s'amuser, se défouler. Il y aura de la musique, il y aura de la danse, il y aura à manger et à boire.
Et ça va se passer où précisément?
Nous serons
ici à Kinshasa.
Mais à Kinshasa, à Limité 13e rue, dans l'enceinte du lycée Ntinouéné. Et nous avons eu déjà un grand merci à monsieur l'inspecteur général chef de corps de l'EPST qui a demandé aux provinces, toutes les provinces, d'envoyer un délégué par province pour venir assister à la fois à la formation et aussi à la grande fête du préscolaire.
On va certainement revenir hein, par rapport à cette grande fête du préscolaire en RDC qui va se dérouler les 12 août prochain avec l'appui du ministère de l'EPST. Pour l'instant, on va suivre Urbain qui a réagi sur, qui nous a fait un message vocal depuis Mouenedito. C'est pas encore prêt au niveau de la réalisation. On va revenir à Urbain, le temps pour nous de lire cette réaction de Moïse Issa depuis la ville de Bounia en Ituri. Il nous écrit ceci. À mon humble avis, je pense que c'est très important d'amener nos enfants à l'école maternelle car c'est cette formation à l'école primaire, à l'école maternelle prépare ses enfants pour le primaire. Voilà, donc vous êtes d'accord avec
oui.
avec Moïse
c'est clair. c'est clair parce que la maternelle prépare entre autres l'enfant à l'école primaire.
Voilà. Urbain, on va l'écouter depuis Mouenedito. Bonjour Urbain.
Oui, bonjour ma radio, bonjour Radio Capi. C'est Urbain Ilunga, je vous appelle depuis, je laisse un message depuis la ville de Mouenedito. En tout cas, ici à Mouenedito, on considère l'école maternelle comme étant un lieu de gardiennage d'enfants. C'est-à-dire quoi? Quand le papa a un travail, la maman aussi travaille. Et à la maison, il n'y a personne qui peut garder l'enfant. On préfère envoyer l'enfant à l'école maternelle pour qu'il soit gardé là-bas par la maîtresse. Alors, si la maman n'a pas un travail, on voit que c'est inutile, elle est à la maison, elle s'occupe juste du ménage, autre chose. Alors, ça sera un peu inutile, moins important, d'envoyer l'enfant à l'école maternelle pour gaspiller seulement de l'argent. Alors, ma petite question est celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il un programme d'école maternelle au Congo? Et ce programme est-il respecté? Car nous voyons ici à Mouenedito, on enseigne aux enfants juste des récitations et des chansons. Il n'y a pas autre chose à part ça. C'est ça au moins ma question. Je vous appelle depuis Mouenedito. Merci.
Merci Urbain. Depuis Mouenedito, Michel Otto. Ça vous a arraché un sourire, hein?
Cher Urbain, oui, il existe un programme national d'enseignement maternel ici en RDC. Et Mouenedito fait partie des provinces qui ont été ciblées par la Banque mondiale où les enseignants avaient été formés à l'usage de ces programmes. Alors, Urbain a aussi évoqué le fait que cette maman qui travaille, le papa travaille, l'école n'est qu'un lieu de gardiennage. Bon, je voudrais revenir à une question qui avait toujours divisé les pédagogues à l'époque. Ils se disputaient de savoir lequel de la famille et de l'école maternelle était le milieu le mieux indiqué pour assurer la première éducation des enfants d'âge préscolaire. Il y a eu beaucoup d'avis contradictoires. Maintenant, il y a deux pédagogues qui étaient réunis. L'un s'appelle Ostrat, l'autre s'appelait Auger. Ils ont dit ceci. Je cite. Si toutes les mères étaient intelligentes, si toutes comprenaient bien leur mission providentielle, la place des enfants d'âge préscolaire serait toute marquée dans le foyer domestique et les écoles maternelles seraient inutiles, voire nuisibles. Alors là, c'est des conditions où les familles ont des ressources pouvant bien s'occuper de leurs enfants. Le auteur continue, il dit, mais malheureusement, les femmes de nos petits commerçants, de nos cultivateurs, de nos travailleurs et travailleuses, occupées par le sujet des graines de pain au quotidien, n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Ceux-ci sont abandonnés à eux-mêmes, ils deviennent vicieux, grossiers, ils courent les rues. Vous voyez? Alors donc, la maternelle, quelque part, joue aussi un rôle de gardiennage. Mais c'est pas l'objectif. Mais sur ce gardiennage, l'enfant y apprend. Il est soumis dans des conditions d'apprentissage. Il est soumis dans des conditions de stimulation de son cerveau et de tous les sens, au fait. Vous voyez un peu? Donc, il faudrait pas envoyer son enfant à l'école parce que il n'y a personne pour rester avec lui, mais il y va pour apprendre beaucoup de choses, pour développer ses compétences, pour travailler, pour stimuler davantage son cerveau. Parce que plus le cerveau apprend beaucoup de choses dès le jeune âge, plus il a beaucoup de chances d'être performant à l'âge adulte.
Il a également parlé du programme pour ce qui est de l'enseignement maternel. Par ça, moi, j'ai doute tout. Il a dit, là, c'est généralement une saison de récitation. C'est vrai que vous l'avez déjà évoqué, mais si vous pouvez revenir par rapport à sa préoccupation.
Ouais, il a dit que moi, il n'y a que les récitations et les chansons. Oui. Ça, c'est vraiment réduire le programme national en deux activités. Les récitations n'est qu'une petite partie des activités de langage. Et la chanson n'est aussi qu'une petite partie des activités musicales. Alors que nous avons 12 activités au total, avec beaucoup de sous-activités, avec beaucoup de matières. Vous voyez? Si on peut de façon très
Parler un peu des autres activités, voilà. Oui.
Je vais prendre le cas, par exemple, des activités exploratoires, qui ont deux sous-activités. La première, c'est la découverte de l'environnement, et la deuxième, c'est l'éveil scientifique. Dans le cadre de l'environnement, on montre à l'enfant qu'est-ce qui l'entoure, à quoi ça lui sert. Parce que, si je prends un exemple, on demande à l'enfant, dans le comportement, éducation morale, de respecter les animaux, de respecter la pelouse. On ne peut pas respecter la pelouse, on peut pas respecter l'animal si on n'a pas appris ce que c'est et à quoi il nous sert. Quand on vient à l'éveil scientifique n'est rien d'autre que cette activité qui permet à l'enfant de réveiller la science qui dort dans l'enfant. Et c'est là qu'on apprend à l'enfant certaines expériences, le changement d'état de la matière, on apprend à l'enfant les effets du vent, on apprend par exemple à l'enfant pourquoi certains corps flottent, pourquoi d'autres ne flottent pas, on apprend à l'enfant pourquoi certains jus pourquoi certains fruits sont jutés, d'autres non. On apprend à l'enfant pourquoi l'aimant n'attire que tout ce qui est métallique avec fer et n'attire pas le papier et le plastique. Donc, ce sont des choses, pas des théories. Donc, l'enfant est mis devant des évidences, devant du matériel, devant des situations qui lui permettent d'expérimenter et de tirer des conclusions. Vous voyez? Et lorsqu'on va, par exemple, dans les activités d'art plastique, par exemple, dans les arts plastiques, je prendrai le cas des activités manuelles. On apprend aux enfants à développer la dextérité manuelle. Il apprendra à déchirer du papier, il apprendra à faire de la mosaïque, il apprendra à faire du dessin, il apprendra à faire du coloriage, il apprendra, par exemple, à ramasser, à faire la propreté. Ça, c'est... Nous sommes dans les activités d'art plastique manuel. Vous voyez? Il y a aussi le graphisme, toujours dans les arts plastiques. Là, on prépare l'enfant justement à l'écriture à l'école primaire. Parce que l'écriture, ce n'est pas de la génération spontanée. C'est un processus qui s'apprend, qui a des étapes à suivre. Il faut développer la grande motricité d'abord, ensuite la motricité fine, et on avance comme ça jusqu'à ce que on arrive à un bon élève au niveau du primaire. Donc, mon ami de mon édito, réduire le préscolaire au simple chant et aux simples récitations, c'est pas bien. Voilà. Et je pense que l'inspection qui est sur place pourrait, si sur cette émission, pourrait s'en occuper pour assurer des formations au profit de dames et messieurs qui encadrent les enfants au niveau de mon édito.
Donc, pour bien préparer l'enfant à l'école primaire, je sais pas, si on a les moyens, autant envoyer l'enfant à l'école maternelle.
Oui. Et là, nous voudrons lancer un cri d'alarme au gouvernement de faciliter l'accès des enfants au préscolaire. Un cri d'alarme au gouvernement, au ministère de l'EPST, de mettre sur pied des classes pré-primaires qui ne sont pas difficiles du tout à faire. C'est pas compliqué. Parce que dans la logique des classes pré-primaires, c'est une école qui existe avec plus de 6 classes, avec un enseignant qui est déjà payé, on crée juste une classe préscolaire, pré-primaire plutôt, avec l'enseignant qui est déjà payé et on y met les enfants de 5 ans. Ça, c'est un plaidoyer, c'est un cri d'alarme que nous lançons au gouvernement congolais de pouvoir aider ce pays à décoller. Parce que ce pays ne pourra pas décoller lorsqu'on n'aura pas investi suffisamment dans la petite enfance.
Michel Otto, coordonnateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement, merci d'avoir été de nôtre pour aborder ces questions. Serait-il important d'envoyer son enfant à l'école maternelle ou pas? Et puis on espère vous retrouver certainement au début du mois d'août pour parler encore de cette grande fête du préscolaire.
Avec plaisir.
Qui est prévue pour le 12 août prochain. Merci.
Merci.